Salutations, moi c'est Sahara, bienvenue sur ma chaîne. Santa Cruz, en Californie, est bien plus qu'une simple ville balnéaire. Située à environ 120 km au sud de San Francisco, cette petite commune côtière est connue pour son charme unique, mêlant une atmosphère décontractée à un riche héritage culturel et historique. Santa Cruz est souvent considérée comme le berceau du surf moderne aux États-Unis, grâce à son littoral magnifique, bordé de plages et à son boardwalk emblématique, l'une des plus anciennes promenades en bord de mer du pays. Cependant, derrière cette image ensoleillée se cache une ville aux multiples facettes. Santa Cruz est un lieu où cohabitent des étudiants de l'université locale, des artistes bohèmes, des retraités fortunés et des travailleurs du secteur maritime. Sa proximité avec la Silicon Valley attire aussi des cadres et entrepreneurs à la recherche d'un équilibre entre vie professionnelle et cadre de vie paisible. D'un point de vue culturel, Santa Cruz est un carrefour dynamique. Des galeries d'art contemporain au marché de fermiers hebdomadaires, la ville s'impose comme un haut lieu d'échange et de création. Les amateurs de musique trouvent leur bonheur dans les nombreux concerts en plein air et les bars accueillants qui jalonnent le centre-ville. Mais au-delà de l'effervescence artistique, Santa Cruz a aussi un côté sombre. Les inégalités sociales et le taux de criminalité, bien qu'en baisse ces dernières années, font partie de la réalité quotidienne. Ces contrastes font de Santa Cruz un décor idéal pour explorer des histoires aussi fascinantes que troublantes. Petite parenthèse culinaire oblige, la situation géographique exceptionnelle de Santa Cruz et sa proximité avec l'océan Pacifique en font un paradis culinaire pour les amateurs de fruits de mer. Parmi les plats emblématiques, on retrouve la clam chowder dont il a été question la semaine dernière. Les restaurants au bord de l'eau proposent souvent des poissons pêche du jour, grillés et préparés en tacos par exemple, un clin d'œil à l'influence mexicaine régionale. Un autre incontournable culinaire de Santa Cruz, c'est le calamar frit, souvent accompagné d'une sauce piquante ou d'une mayonnaise à l'ail. Les calamars abondants dans les eaux locales sont une ressource prisée par les pêcheurs de la région. Ce plat, aussi simple qu'authentique, symbolise le lien fort entre la ville et son environnement maritime. Le port de Santa Cruz, Santa Cruz Harbor, est un point névralgique pour la communauté locale. Créé dans les années 60, il s'agit d'un port de plaisance qui accueille environ 1200 bateaux, allant des petites embarcations de pêche aux yachts luxueux. Ce port est particulièrement apprécié pour son ambiance conviviale et son intégration harmonieuse avec la nature environnante. Il offre également des infrastructures modernes, dont des restaurants avec vue sur la baie, des boutiques nautiques et des services de location de bateaux. C'est aussi un lieu de travail pour de nombreux pêcheurs locaux qui rapportent chaque matin leurs prises fraîches au marché. Les visiteurs peuvent participer à des activités telles que le voile, le paddleboard ou même des excursions pour observer les baleines. Mais le port de Santa Cruz n'est pas seulement un lieu touristique. Il joue un rôle crucial dans l'économie de la ville et dans la vie quotidienne des habitants. Amarré dans ce port pittoresque, le yacht nommé Escape attire les regards. Avec ses lignes élégantes et sa taille imposante, il incarne le luxe et le confort. Propriété d'un homme fortuné qui habite à Santa Cruz, ce bateau, dont la valeur est estimée à 200 000 dollars, représente bien plus qu'un simple moyen de transport ou un passe-temps. Il symbolise un mode de vie, une recherche d'évasion et de liberté loin des tumultes de la vie quotidienne. D'où le nom Escape. L'équipement de l'Escape est à la hauteur des standards les plus élevés. Cabine luxueuse, pont spacieux pour recevoir des invités et système de navigation ultra moderne. Pourtant, ce yacht cache une histoire bien sombre. Une tragédie qui contraste fortement avec son image glamour. Ce lieu de loisirs et de réjouissance va devenir une nuit le témoin silencieux d'un événement tragique qui marquera l'histoire de Santa Cruz. Le décor d'une affaire aussi captivante que glaçante est posé. Plongeons maintenant au cœur des événements qui vont conduire à cette nuit fatidique à bord de l'Escape. Forrest Timothy Hayes naît le 6 juillet 1960 à Dearborn dans l'état du Michigan. Il grandit dans une famille modeste et il reçoit une éducation stricte mais aimante. Ses parents, travailleurs acharnés, lui inculquent des valeurs de discipline, de persévérance, des qualités qui marquent profondément sa personnalité. Forrest est un élève brillant et curieux, il montre dès son plus jeune âge un intérêt pour les technologies émergentes. Enfant, il démonte des appareils électroniques pour comprendre leur fonctionnement et il se passionne pour les premiers ordinateurs domestiques. Il passe des heures à lire des revues spécialisées. Sa curiosité insatiable le pousse à expérimenter avec des kits de construction électronique et à coder de simples programmes sur les ordinateurs rudimentaires de l'époque, une activité rare pour un enfant de son âge. Après avoir obtenu son diplôme de fin d'études secondaires avec mention, il poursuit des études supérieures en ingénierie informatique à l'Université d'État du Michigan où il excelle dans ses cours. Il obtient son diplôme avec distinction et il entame une carrière prometteuse dans l'industrie technologique. Il commence dans son état natal du Michigan en travaillant pour Ford Motor Company en tant que manager, où il se spécialise dans l'intégration des technologies émergentes dans les processus de production. Sa vie professionnelle le mène d'abord à travailler pour plusieurs entreprises de renom où il se distingue par son expertise technique et ses qualités de leader. Forrest se fait rapidement un nom dans le domaine, gravissant les échelons jusqu'à occuper des postes stratégiques. Dans les années 2000, Forrest s'installe en Californie, attiré par l'effervescence de la Silicon Valley, un centre névralgique pour l'innovation technologique mondiale. Il rejoint Sun Microsystems, où il continue de se distinguer par son expertise technique et ses qualités de leader. Il travaille ensuite pour Apple, contribuant à des projets innovants au sein de l'entreprise. Et enfin, il intègre Google en 2005, où il occupe un poste de haut niveau en tant que directeur des opérations informatiques. Son rôle consiste à superviser les infrastructures techniques de l'entreprise, assurant la fiabilité et la sécurité des systèmes qui soutiennent les activités globales de Google. Un campus ultra-moderne connu sous le nom de Googleplex, symbole de la créativité et de l'avant-gardisme de la Silicon Valley. La Silicon Valley elle-même est un lieu fascinant qui regroupe les géants de la technologie comme Google, Apple et Facebook. Cette région est le berceau d'innovations qui transforment le monde, mais elle est aussi marquée par une compétition féroce et une pression intense. Pour Forrest, cependant, cette atmosphère stimule son ambition et renforce sa quête d'excellence. Personnalité discrète et généreuse, Forrest est apprécié de ses collègues pour son professionnalisme et son sens de l'humour. Sur le plan personnel, il rencontre sa future épouse, Denise, pendant une conférence technologique à Chicago en 1985. Leur connexion est instantanée, alimentée par des intérêts communs et une vision partagée de la vie. Après plusieurs années de relation, Forrest et Denise se marient en 1990 lors d'une cérémonie intime entourée de leur famille et amis proches. Le couple s'installe en Californie peu après leur mariage, où ils bâtissent une vie stable et confortable. Forrest et Denise auront 5 enfants en tout, Olivia, Ethan, Sophia, Luca et Emma, qu'ils élèvent avec amour et attention. Forrest, bien qu'exigeant dans sa vie professionnelle, est un père dévoué qui prend plaisir à partager des moments avec ses enfants, notamment en les initiant à la navigation et aux activités en plein air. La famille Hayes est un pilier de leur communauté locale, connue pour sa générosité et son engagement envers les autres. Forrest mène une vie privée relativement tranquille, il partage son temps entre sa famille, ses amis proches et ses passions, et notamment la navigation. Propriétaire du yacht Escape, il aime s'évader sur l'océan, il trouve dans ses moments de solitude un équilibre face au rythme effréné de la Silicon Valley. Et pourtant, malgré cette vie apparemment idyllique, Forrest se retrouve au centre d'une tragédie qui changera tout. Le 22 novembre 2013, Forrest se rend sur son yacht, le luxueux Escape, amarré au port de Santa Cruz. Il prévoit une soirée paisible à bord de son bateau, un endroit qu'il affectionne particulièrement pour échapper à la pression de son quotidien dans la Silicon Valley. Cependant, la soirée prend une tournure dramatique. Plus tard dans la nuit, ne recevant aucune réponse de son mari, Denise commence à s'inquiéter. Et cette inquiétude s'intensifie lorsqu'il ne répond pas à ses appels et à ses messages. Face à cette situation inhabituelle, Denise contacte le capitaine du yacht, un homme de confiance chargé de l'entretien et de la gestion de l'Escape. Elle lui demande de vérifier si tout va bien. Et en arrivant sur le yacht, le capitaine découvre une scène troublante. Forrest est étendu par terre dans la cabine principale. Choqué, il appelle immédiatement les services d'urgence. Les premiers intervenants arrivent rapidement sur les lieux et on constate immédiatement le décès de Forrest Hayes. La scène intrigue immédiatement les enquêteurs qui notent tout de suite plusieurs éléments suspects. Parmi ces éléments, des marques d'injection sur le bras gauche de Forrest attirent l'attention. Elles suggèrent l'administration d'une substance, un détail qui écarte rapidement l'hypothèse d'une mort naturelle. On remarque également qu'il y a 2 verres de vin posés sur la table, ce qui indique qu'il n'est pas seul à bord de son yacht cette nuit-là. Ces indices orientent rapidement les enquêteurs vers la piste criminelle. Le département de police de Santa Cruz prend en charge l'enquête. On commence à collecter des preuves et à interroger les personnes susceptibles d'avoir été en contact avec Forrest ce soir-là. Les analyses préliminaires de la scène indiquent qu'il ne s'agit pas d'un simple accident, mais bien d'un homicide. L'intervention de la police marque le début d'une enquête complexe. Qui est avec Forrest cette nuit-là? Pourquoi un homme aussi respecté et aimé se retrouve-t-il victime d'un acte aussi violent? Les réponses à ces questions vont révéler une histoire aussi sombre que surprenante. L'enquête sur la mort de Forrest Hayes est très peu médiatisée à l'époque où a lieu le drame. Une raison qui sera évoquée plus tard par les médias quand enfin ils se saisissent de l'affaire, c'est le travail de Forrest. Visiblement, on connaît son intitulé de poste chez Google, mais ce qu'il fait concrètement est en réalité tenu secret. Et Forrest travaille même dans une branche qui est tenue secrète du reste de l'entreprise. Malgré tout, l'enquête progresse rapidement grâce aux indices laissés sur les lieux du drame. Une des premières découvertes cruciales, c'est une vidéo de surveillance capturée au port de Santa Cruz. Ces images montrent une femme brune, élégante, qui a plusieurs tatouages distinctifs. La police ne révèle pas encore son identité, mais ces détails intrigants deviennent une piste majeure dans l'investigation. Les enquêteurs explorent également la vie privée de Forrest et ils découvrent son profil sur un site de rencontre, Seeking Arrangement, ça veut dire à la recherche d'un arrangement. Ce site spécialisé dans les relations entre Sugar Daddy et Sugar Baby joue un rôle clé dans les révélations qui suivront. Forrest y a un compte actif où il est inscrit pour établir des relations discrètes en dehors de son mariage. L'accès à son historique numérique fournit des pistes déterminantes pour identifier les personnes qui ont récemment interagi avec lui. Seeking Arrangement, c'est une plateforme en ligne qui connecte des personnes dans le cadre de relations mutuellement bénéfiques. Les Sugar Daddies, généralement des hommes riches et influents, recherchent la compagnie de Sugar Babies, souvent des jeunes femmes attirantes, à la recherche de soutien financier ou de mentorat. Alors par mentorat, on entend souvent un accompagnement professionnel et ou financier pour atteindre des objectifs personnels ou professionnels, ou encore un soutien émotionnel dans un cadre structuré. Ça peut inclure des discussions sur des plans de carrière, des opportunités d'affaires, etc. Le site permet à ses membres de définir des attentes très clairement. Les profils féminins incluent souvent des informations telles que l'âge, les aspirations éducatives, les mensurations et les attentes financières. On peut par exemple être spécifique sur des montants mensuels qu'on attend ou des avantages spécifiques qu'on recherche dans une relation avec un sugar daddy. Ces avantages peuvent inclure des cadeaux luxueux, des voyages, l'accès à des cercles sociaux élitistes ou encore un soutien pour financer des études ou des projets professionnels. Les préférences en termes de relations peuvent également être mentionnées. De leur côté, les hommes mettent en avant leur succès professionnel, leur niveau de revenu et les types de relations qu'ils recherchent. Souvent, ils attendent des sugar babies qu'elles apportent de la compagnie, du charme et une présence agréable pendant des événements sociaux ou privés. Certains recherchent également une relation où règne discrétion, compréhension mutuelle et absence d'engagement émotionnel profond, tandis que d'autres cherchent à établir un lien plus durable basé sur un équilibre entre soutien financier et attachement personnel. Le site Seeking Arrangement met en avant qu'il ne propose pas un service de prostitution, puisqu'en effet les relations établies sont basées sur des accords consentis mutuellement. Les interactions ne sont pas exclusivement financières, mais elles incluent souvent des attentes d'accompagnement social, d'affinité personnelle et de soutien mutuel, ce qui distingue ces arrangements de transactions purement commerciales, comme c'est le cas pour la prostitution. La découverte du profil de Forrest sur le site Seeking Arrangement oriente l'enquête dans cette direction très inattendue. La femme vue sur les images de surveillance est-elle liée à ce site? Quelle est sa relation avec Forrest? Les policiers redoublent d'efforts pour en apprendre davantage sur cette mystérieuse brune et comprendre les événements qui conduisent à la tragédie à bord du Escape. La police parvient à établir un lien entre la femme vue sur les vidéos de surveillance du port de Santa Cruz et Alix Tickleman, grâce à plusieurs éléments cruciaux. Les tatouages distinctifs de la femme sur les images correspondent à ceux qu'on peut voir sur les photos de profil d'Alix sur le site Seeking Arrangement. En analysant les échanges entre Forrest et ce profil, les enquêteurs découvrent qu'Alix avait récemment interagi avec lui. Un autre indice clé provient d'un SMS qu'elle envoie à un proche la veille de l'incident. « Je vais rejoindre un homme sur un bateau ». Ces preuves permettent d'identifier formellement la mystérieuse femme. Alix Tickleman naît le 20 octobre 1987 au Canada. Elle grandit dans une famille aisée, entourée de ses parents Bart et Leslie Ann et de sa sœur cadette Monica. La famille émigre en Géorgie, aux États-Unis, alors que Alix est enfant. Ils s'installent dans la banlieue d'Atlanta où leur vie paisible continue. Cependant, derrière cette façade de normalité, Alix traverse une enfance marquée par des troubles et des traumatismes qu'elle garde pour elle. Elle se montre réservée, elle évite de partager ses difficultés avec ses amis ou avec sa famille. Dès son adolescence, Alix commence à se droguer. À 17 ans, elle sombre dans une addiction sérieuse à l'héroïne, une dépendance qui l'accompagne tout au long de sa vie. Ses problèmes ne se limitent pas à la toxicomanie, elle souffre de troubles du comportement alimentaire, notamment d'anorexie. Elle se mutile pour gérer son mal-être. À l'école, ses camarades voient bien ses cicatrices, notamment celles qu'elle se fait sur les bras et aux poignets. Même ses parents et sa sœur le remarquent, mais tous se sentent impuissants. Ses comportements autodestructeurs, combinés à son isolement émotionnel, rendent Alix réticente à accepter l'aide que son entourage essaie de lui offrir. Alix est connue pour son amour de l'écriture, une passion qu'elle développe depuis son enfance. Elle remporte même plusieurs récompenses littéraires pendant son adolescence, notamment sur des poèmes et des nouvelles qui reflètent une profonde sensibilité, mais aussi une vision sombre, mais lucide, de la vie. Ces distinctions, bien que moins connues du grand public, témoignent d'une facette artistique et introspective qui contraste fortement avec son image publique. Malgré ses luttes personnelles, la jeune femme essaie de se construire une vie professionnelle. Elle travaille comme modèle, elle participe à des séances photos, à des projets artistiques, et parallèlement elle est danseuse exotique, un emploi qui lui permet surtout de subvenir à ses besoins tout en alimentant son mode de vie, enfin surtout son addiction. La vie d'Alix semble refléter une quête désespérée d'évasion. À travers son profil sur Seeking Arrangement, elle cherche à concilier ses besoins financiers avec son désir d'établir des relations, bien que celles-ci soient souvent superficielles. Les éléments de sa personnalité complexe et de son passé tourmenté intriguent les enquêteurs. Comment cette jeune femme, issue d'un milieu relativement privilégié, en est-elle arrivée à se retrouver impliquée dans une affaire de cette nature ? Alors plus tôt, tu te souviens, je te parlais des images de vidéosurveillance sur le port de Santa Cruz. La police va vite découvrir qu'il existe une autre caméra qui a capté des images bien plus parlantes. Cette caméra se trouve à l'intérieur du yacht Escape et elle capture précisément le moment de la mort de Forrest. Obtenir les enregistrements des caméras sur le port, aucun souci, mais la police va mettre énormément de temps à mettre la main sur l'enregistrement à l'intérieur du yacht. Et quand enfin ils y ont accès, ce qu'ils vont voir sur ces images va leur glacer le sang. Discrètement installée dans la cabine principale, cette caméra révèle les détails troublants des derniers instants de Forrest et le comportement de la femme qui sera plus tard identifiée comme étant Alix. Dans les premières minutes de la vidéo, on voit Forrest accueillir Alix à bord du yacht. Ils se prennent dans les bras, ils se font comme un petit câlin. Alors pour info, les Américains, ça tape pas la bise. Forrest et Alix semblent détendus, ils commencent une conversation amicale, ils partagent un petit repas et un verre de vin. Ils consomment également de la drogue, et plus précisément de la cocaïne, une activité à laquelle ils semblent tous les deux habitués. La vidéo montre Alix préparer la drogue avant de l'injecter à Forrest. Mais soudainement, Forrest commence à montrer des signes de détresse. Sa respiration devient irrégulière, il perd l'équilibre. Alix lui tapote le visage comme pour le faire revenir à lui, mais Forrest finit par s'effondrer sur le sol. Le comportement d'Alix à partir de ce moment va être particulièrement choquant. Plutôt que d'intervenir pour l'aider ou appeler les secours, elle continue de boire son verre de vin. Elle ferme les stores des fenêtres pour éviter à tout œil indiscret de voir ce qu'il se passe à l'intérieur de l'Escape. Ensuite, elle commence à rassembler ses affaires et elle quitte tranquillement le yacht, laissant Forrest sans assistance. Ce comportement suspect est l'un des points soulignés par Steve Clark, chef adjoint de la police de Santa Cruz, pendant une conférence de presse. Le chef adjoint décrit l'attitude d'Alix comme glaciale. Il note qu'elle ne manifeste aucun signe de panique ou d'empathie face à la situation critique de Forrest. La vidéo met également en évidence d'autres détails accablants. Alix semble délibérément effacer les traces de son passage sur le yacht avant de partir. Elle vérifie qu'elle ne laisse aucun objet personnel derrière elle. Cette précaution renforce les soupçons des enquêteurs quant à son implication consciente dans les événements qui conduisent à la mort de Forrest. Et grâce à cet enregistrement, les autorités disposent d'une preuve irréfutable de la présence d'Alix sur les lieux au moment du décès et de son rôle actif dans les circonstances qui mènent à la tragédie. Ce document visuel devient un élément central de l'affaire, éclairant non seulement les derniers instants de la vie de Forrest, mais aussi la froideur et le détachement de la femme qu'il avait invitée à bord. La police de Santa Cruz, déterminée à arrêter Alix Tickleman pour son implication dans le meurtre de Forrest Hayes, va mettre en place un stratagème ingénieux pour contourner les obstacles juridiques liés à sa localisation. Alors en effet, Alix se trouve dans un comté différent, ce qui rendrait son arrestation complexe sans un mandat approprié, une procédure qui prendrait du temps. Pour l'amener dans le comté de Santa Cruz, où le drame a eu lieu, un détective sous couverture se fait passer pour un client potentiel, pour une rencontre potentielle. Il va la contacter via le site Seeking Arrangement. L'agent engage une conversation avec Alix, il prétend vouloir établir une relation. Il demande plusieurs photos d'elle, y compris des clichés dénudés, dans ce qui semble être une tentative de crédibiliser son rôle. Alors perso, j'y ai plutôt vu une opportunité de se rincer l'œil, mais bref. Alix accepte finalement de le rencontrer dans un hôtel situé à Santa Cruz. Le 4 juillet 2014, la rencontre a lieu. Alix pense retrouver un client, elle arrive à l'hôtel, elle salue l'agent sous couverture, mais avant qu'elle ne puisse suspecter quoi que ce soit, il lui passe les menottes. Elle est arrêtée sur place et conduite au commissariat. Officiellement, Alix est d'abord interrogée pour des accusations de prostitution, une stratégie pour l'inciter à parler. Ce qu'elle ignore, c'est que la police enquête également sur le meurtre de Forrest. Lors de son arrivée au poste, elle apprend la mort de Forrest, un choc visible qui marque le début de son interrogatoire. Et les détails de cet interrogatoire restent en grande partie confidentiels, mais il est rapporté qu'Alix se montre d'abord confuse, puis distante quand elle comprend la gravité des accusations portées contre elle. Les enquêteurs exploitent la vidéo de surveillance et ses propres messages pour l'amener à fournir des réponses. Le procès d'Alix Tickleman débute le 29 juin 2015 au tribunal de Santa Cruz. Les procureurs l'accusent d'homicide involontaire, d'administration de drogue et de destruction de preuves. Sa défense est assurée par les avocats Gerald J. Klein et Larry Bigham. Et ce que vont dire les avocats d'Alix, ça tient la route. Ils mettent en avant la nature consentie de la relation entre Alix et Forrest. D'ailleurs, sur la vidéo de surveillance à l'intérieur du yacht, on voit Forrest utiliser la lampe torche de son téléphone portable pour indiquer à Alix où l'injecter dans son bras. Les avocats de la défense insistent sur le fait qu'Alix ne l'a pas drogué à son insu et que son comportement après l'overdose, bien que critiquable, n'était pas motivé par une intention criminelle. Et je t'en dis plus à ce sujet dans quelques minutes. La famille de Forrest, bien que présente au procès, va rester très discrète. Déjà, ils n'en veulent même pas de ce procès. Depuis le départ, ce qu'ils demandent à la police de Santa Cruz, c'est que toutes les charges à l'encontre d'Alix soient abandonnées. Et c'est du jamais vu. En tout cas, moi, j'ai jamais vu ça. À ce sujet, il y a plusieurs théories. La première, c'est qu'ils sont vraisemblablement convaincus que l'overdose est accidentelle. Forrest fait venir Alix sur son bateau. C'est à sa demande à lui qu'elle apporte de la drogue. Drogue qu'on le voit clairement consommer de façon totalement volontaire. Même si on pourrait arguer qu'elle injecte peut-être une dose mortelle sans que lui le sache. Mais bon, c'est une déposition probable de la famille Hayes à ce sujet. L'autre théorie concerne la médiatisation de l'affaire. La famille de la victime ne veut surtout pas que la vidéo à l'intérieur du yacht ne soit rendue publique, et on ne voulait sûrement pas que le monde entier sache que Forrest trompait sa femme, qu'il était inscrit sur un site pour Sugar Daddies, et que par le passé, d'ailleurs, il a dépensé 10 000 dollars pour une Sugar Baby. On ne veut pas non plus que le fait que Forrest se droguait se sache. Alors attention, tout ça c'est pas des théories, la famille Hayes veut protéger l'image de Forrest, ce qui n'est pas certain, c'est pourquoi ils veulent abandonner toutes les charges à l'encontre d'Alix. La famille Hayes est même d'accord pour dire que tout au long de l'enquête, et aussi pendant le procès, la police et les procureurs s'acharnent à dépeindre Alix comme une prostituée assoiffée d'argent qui tue un client de sang-froid. Et au contraire, ils estiment que la vidéo montre une femme qui panique réellement et qui tente désespérément de venir en aide à Forrest. Malgré une stratégie de défense totalement cohérente, qui tient la route et qui est presque soutenue par la famille de la victime, Alix choisit de plaider coupable pour homicide involontaire. Elle présente des excuses sincères à la famille de Forrest, elle exprime ses regrets pour la douleur causée par sa perte soudaine, et en échange de son plaidoyer, elle est condamnée à 5 ans de prison pour homicide involontaire et administration de drogue ayant causé la mort. Elle reçoit un crédit pour le temps déjà purgé en détention provisoire, ce qui réduit sa peine effective. Après une libération anticipée pour bonne conduite, elle est libérée en 2017, soit au bout de 2 ans et demi de prison, et elle est presque immédiatement expulsée au Canada. Alors certes, elle a la double nationalité, puisqu'elle finit par être naturalisée américaine après avoir émigré aux USA avec sa famille quand elle est enfant, mais le juge fédéral de l'immigration ordonne son renvoi vers le Canada. Il considère que ces condamnations constituent des motifs suffisants pour son expulsion. Et au Canada, Alix, elle s'y sent très bien. Elle aurait aimé retourner à Atlanta, puisque c'est là que sa famille se trouve, mais finalement, c'est pas plus mal. Vu le traitement que la police de Santa Cruz lui a réservé autour de cette affaire, elle est mieux là où elle est. Les problèmes de drogue, c'est maintenant derrière elle. Elle a même un nouveau petit ami. Elle est avec lui dans une relation très saine. Tout va pour le mieux, explique Alix dans une interview qu'elle donne aux médias KSBW. Et pendant cette interview, elle revient sur des éléments clés de l'affaire du meurtre de Forrest. Alix explique que le jour du drame, il s'agit en réalité de sa deuxième rencontre avec Forrest. Elle, elle apporte certes de la cocaïne, mais lui, il lui donne du Valium. Donc elle n'est pas la seule à avoir apporter de quoi faire la fête. Alix raconte qu'ils mangent un peu, ils boivent du vin, d'où les 2 verres, ils consomment ces substances que chacun a apportées, et d'ailleurs elle précise que Forrest il ne voulait pas coucher avec elle, il voulait juste se défoncer un peu. Alix va aussi ajouter que la veille, il y a une autre femme sur le bateau, une femme que Forrest rencontre via le même site, Seeking Arrangement. À cette autre femme, d'ailleurs, il lui demande d'apporter de la méthadone. Elle n'en apporte pas puisqu'elle ne parvient pas à s'en procurer, ou en tout cas pas à temps pour son rendez-vous avec Forrest, et elle apporte autre chose. Forrest, il va consommer pas mal de cette autre substance, ce qui, d'après Alix, aurait pu contribuer à sa mort le lendemain quand elle vient le voir sur son bateau. Et si en effet il consomme beaucoup de drogue la veille et que son système n'a pas tout évacué, l'overdose a très bien pu être provoquée par ces deux événements et pas seulement par l'injection que lui fait Alix. Ça aurait pu être un élément déterminant dans le procès, donc je ne sais pas pourquoi les avocats d'Alix ne l'ont pas mentionné, pourquoi la police ne creuse pas du tout la piste de cette autre femme. Et autre chose que Alix va dire pendant son interview, et que malheureusement on ne pourra jamais vérifier, c'est ce qu'il se passe au moment où Forrest s'effondre. Alix panique, contrairement à ce que dit la police. Et sur ce coup, je pense qu'on peut la croire, puisque même la famille de la victime la soutient. Alix panique, elle se met à pleurer quand elle voit qu'elle est impuissante face à ce qui est en train de se produire sous ses yeux. Et elle précise quelque chose de très important, c'est qu'elle-même est sous l'effet de la drogue. Elle s'est injectée en première avant d'injecter le bras de Forrest. Alors oui, elle essaie de partir, elle essaie d'effacer les traces de son passage, mais elle affirme que c'est par respect pour la famille de Forrest, puisqu'elle sait qu'il est marié et qu'il a des enfants. Après avoir quitté le bateau, Alix est tiraillée. Est-ce qu'elle appelle le 911? Si elle le fait, elle s'implique dans l'affaire, mais si elle ne le fait pas, il risque peut-être de mourir. Alix décide de ne pas appeler les secours, mais elle n'est pas dans son état normal. Dans les jours qui suivent, elle essaie de téléphoner à Forrest pour prendre des nouvelles, et à ce stade, elle ne sait pas qu'il est mort. Elle se dit qu'il a peut-être fait juste une très mauvaise réaction. Et la suite de l'histoire, on la connaît. Par contre, ce que tu ne sais pas encore, c'est que c'est pas la première fois qu'un homme meurt dans les bras d'Alix. Je te raconte. Après avoir quitté l'école, Alix commence à travailler comme modèle et comme danseuse exotique. Pour ce faire, elle quitte la Géorgie et elle s'installe à San Francisco, en Californie. Cette expérience marque un tournant dans sa vie, à la fois sur le plan personnel et professionnel. Et plus tard, elle retourne à Atlanta où elle rencontre un homme bien plus âgé qu'elle, un homme qui va jouer un rôle central dans son histoire. Dean Riopelle est une figure connue à Atlanta. Divorcé et père de plusieurs enfants issus d'une précédente union, il est propriétaire d'une boîte de nuit renommée le Masquerade. Cette boîte, située dans un bâtiment historique de la ville, est célèbre pour ses soirées gothiques et ses concerts de musique alternative. Dean est également passionné par les animaux exotiques, il va jusqu'à en élever certains chez lui, ce qui reflète sa personnalité un peu excentrique, mais quand même attachante. Quand il rencontre Alix, Dean tombe follement amoureux. Il envisage sérieusement de l'épouser, il achète même une bague de fiançailles pour elle. De son côté, Alix partage ses sentiments. Elle pense également au mariage. Cependant, leur relation est marquée par un problème récurrent, la drogue. Dean, selon certaines sources, comme l'une de ses employées et aussi nounou de ses enfants, ne consomme ni alcool ni drogue. Et pourtant, un ami proche de Todd va contredire cette version. Il affirme que Dean, alors certes, il ne consomme aucune drogue, mais il aime boire. Quoi qu'il en soit, il est clair que la consommation de drogue d'Alix inquiète profondément Dean. Dans un effort pour l'aider, Dean envoie Alix dans un centre de désintoxication. Malheureusement, après sa sortie, Alix rechute très rapidement. Elle reprend ses habitudes destructrices. Cette période coïncide avec la découverte par Dean qu'Alix est active sur des sites comme Seeking Arrangement, où elle propose des services contre de l'argent. Cette révélation va profondément choquer Dean. Il commence à se réfugier dans l'alcool, ce qui aggrave une situation déjà tendue. En septembre 2013, soit 2 mois avant la mort de Forrest, Dean meurt d'une overdose impliquant de l'héroïne, de l'oxycodone et de l'alcool. Les circonstances de sa mort rappellent étrangement celles de Forrest. Cette fois, Alix appelle la police.
I think my boyfriend overdosed or something, like he won't respond.
Selon son témoignage, Alix essaie de réanimer Dean pendant 5 minutes avant de composer le 911. Elle explique qu'elle est sous la douche quand elle entend un bruit. Elle retrouve Dean inconscient. Dean décède à l'hôpital une semaine plus tard. L'autopsie conclut à une overdose accidentelle. Mais des incidents antérieurs entre Dean et Alix vont jeter une ombre sur cette conclusion. En septembre 2013, peu avant sa mort, Alix appelle la police, elle affirme que Dean l'a jeté par terre. Dean, quant à lui, déclare aux policiers qu'Alix a pris des cachets, qu'elle a bu de l'alcool et qu'elle a causé des problèmes dans son club, le Masquerade. Apparemment, elle se serait jetée sur la foule depuis la scène, telle une star de rock, et elle aurait aussi montré ses seins à tout le monde. Dean, embarrassé, décide de la ramener à la maison. Une dispute éclate au domicile du couple. Dean affirme qu'Alix lui mord le doigt et elle menace de se frapper elle-même pour le faire accuser lui de violence. Un voisin confirmera même avoir entendu Alix faire ces menaces. Alix est arrêtée pour coups et blessures, mais il n'y a pas de suite, alors je crois que c'est parce que Dean retire sa plainte. Ces tensions culminent avec la mort de Dean en septembre 2013, soit seulement 2 mois avant la mort de Forrest. Alors est-ce qu'on est choqué ou est-ce qu'on n'est pas choqué? Bien que l'autopsie de Dean conclue à une overdose accidentelle, l'affaire est revisitée après l'arrestation d'Alix pour le meurtre de Forrest. Alix est inculpée à Atlanta pour le meurtre de Dean, ainsi que pour distribution d'héroïne et d'oxycodone, les substances responsables dans la mort de Dean. À ce jour, la procédure d'extradition est en cours et l'affaire reste ouverte. Alors pour conclure, je dois avouer que je suis hyper choquée de la tournure des événements. D'un côté, on a une Alix au passé trouble, à la jeunesse très tourmentée, et je lui tire mon chapeau de ne pas avoir sorti la carte de la pleurniche pendant son procès, ce qu'elle aurait très bien pu faire. La question qui reste en suspens à ce propos, c'est donc qu'a-t-elle vécu pour en arriver à l'autodestruction, aux troubles du comportement alimentaire, à la surconsommation de drogue, etc. Enfin, on n'en arrive pas là parce qu'on a eu une enfance très heureuse. Mais la question que je me pose surtout, c'est mort de deux hommes dans des circonstances très similaires, est-ce que c'est une coïncidence? Une mise à mort voulue, préméditée? Alors si c'est le cas, dans quel but? Pour Dean, avec qui elle est en couple, il y a une dispute, un comportement que monsieur ne supporte plus, mais on n'en sait pas plus. Alors est-ce que ce serait un motif suffisant pour vouloir la mort d'une personne? C'est quelque chose qu'on peut un peu plus comprendre que pour le cas de Forrest. S'il y a des disputes dans le couple, voilà, c'est déjà arrivé que un des deux en arrive aux mains. Par contre, pour Forrest, c'est hyper étonnant. Quel serait le mobile? D'après une amie d'enfance qui souhaite rester anonyme, Alix aurait dit un jour qu'elle déteste les hommes. Alors perso, ça m'a tout de suite mis sur la piste d'un abus peut-être de nature sexuelle dans l'enfance, un trauma lié au père peut-être. Et en parlant de son père, voici une info à son sujet que j'ai volontairement gardée jusqu'ici. Bart, le père d'Alix, il se trouve qu'il était fan de poker, il était même excellent joueur. D'ailleurs, il est peut-être toujours. Sa plus grosse victoire, $400 000. Ah, si c'était par là le poker, je pense que je tenterais ma chance. Mais je pense que j'aurais été très mauvaise, j'aurais perdu, je suis pas une bonne actrice. Bref, tout ça pour dire que bah, cette haine supposée des hommes, avoir grandi dans une famille très aisée, avoir grandi avec un père qui aime l'argent au point de jouer au poker et de parfois remporter des grosses sommes, ça a peut-être joué un rôle important dans la vie d'Alix qui, en grandissant, aime l'argent, au point de devenir une sugar baby et même une tueuse peut-être. En tout cas, aux yeux de la loi, pour la mort de Forrest Hayes, pour laquelle elle a été condamnée, elle est considérée comme une tueuse. Donc voilà, je te laisse avec ça, dis-moi ce que tu en penses en commentaire, hâte de lire vos théories à propos d'Alix, à propos de la belle sugar baby tatouée de la tête aux pieds. Merci d'être resté jusqu'à la fin, c'est tout pour moi, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle affaire.